Bonjour à chacun. C'est important ce temps de prière avant la prédication, mais moi je vous encourage à prendre le temps dans votre moment de prière personnel, vraiment d'avoir un temps réservé aussi pour la prière pour ceux qui ont la responsabilité d'annoncer la parole. On ne prêche pas pour se faire plaisir, on ne prêche pas pour revenir sans cesse sur des sujets qui sont un peu nos marottes, non. On essaye vraiment de se tenir devant la face de Dieu pour apporter l'enseignement, pour apporter ce qu'on pense avoir reçu du Saint-Esprit pour l'édification de nos frères et sœurs, pour notre propre édification et pour en discuter voilà, entre nous. C'est des moments qui ne sont pas toujours faciles, c'est des moments où le Saint-Esprit travaille nos cœurs aussi et je crois que c'est important que l'Église puisse aussi soutenir dans la prière les frères qui annoncent l'Évangile, qui annoncent l'enseignement. Je me réjouis du temps que nous avons pu passer déjà dans la louange et je me disais que parfois on est fatigué, parfois on est découragé, puis on a un petit peu de mal à louer le Seigneur. Et je constate, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je constate que plus on donne, plus on loue et plus on reçoit. Et à la base, la louange, quand on regarde un petit peu dans la parole, je ne vais pas prêcher sur la louange ce matin, mais quand on regarde dans la parole, la louange, c'est le don, c'est la reconnaissance, c'est ce qu'on donne au Seigneur. Et en tout cas, moi, je suis vraiment encouragé, dimanche après dimanche, de voir qu'après le temps de louange, je suis déjà renouvelé par ce que j'ai proclamé, parce que j'ai chanté des paroles de la Bible, parce que j'ai loué mon Dieu. Et en retour, il y a déjà une communion qui s'établit. Et je suis déjà édifié par la louange. C'est vraiment des temps qui sont bénis et qui sont importants aussi dans notre vie chrétienne. Je souhaiterais lire avec vous un premier texte d'introduction dans l'Évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 4. Évangile de Luc, chapitre 4, et nous lirons les 13 premiers versets. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. J'aimerais ce matin échanger un petit peu avec vous sur la tentation. Alors, on ne va pas explorer le sujet en entier parce que la tentation peut prendre des formes tellement variées, mais je voudrais qu'on essaye de voir ensemble et d'essayer de comprendre ce qu'est la tentation. Et puis, ce qui me paraît surtout important, c'est comment je peux m'en protéger, comment je peux résister à la tentation. Alors, si on prend une définition un peu classique de la tentation, c'est l'attrait vers quelque chose de défendu. C'est l'incitation au péché. J'étais surpris même de trouver cette définition dans le Larousse. On a, même si la tendance est de ne plus parler de péché, on a encore dans le Larousse le mot péché qui apparaît. Peut-être que dans quelques années, on ne verra même plus le mot péché apparaître, mais pour l'instant, il y a encore. Donc, comme quoi, même ceux qui définissent les termes et leurs définitions ont une notion aussi du péché. Attrait vers quelque chose de défendu, incitation au péché, que ce soit en acte, que ce soit en parole, que ce soit en pensée. Et la racine du mot en grec, d'ailleurs, est la même racine que le mot épreuve. La tentation, l'épreuve, c'est le même mot. Et notamment dans le sens de l'épreuve, d'éprouver. Vous savez, pour ceux qui sont dans le domaine technique, quand on éprouve quelque chose, on teste la résistance. Et il est utilisé dans le sens d'éprouver, de tester la fidélité de quelqu'un, de tester son intégrité, sa vertu, sa constance. Et la tentation, bien évidemment, je pense que tout le monde y est passé et y passe même certainement encore régulièrement. La tentation aura pour seul but de nous éloigner du sentier de l'obéissance à Dieu en essayant de nous séduire avec ce qui satisfait notre chair. Vous aurez remarqué certainement, je n'en doute pas, on n'est jamais tenté par des choses répugnantes. En général, on est plutôt tenté par des choses qui semblent agréables, qui sont attrayantes et qui font miroiter quelque chose de bien derrière. Et on va s'appuyer sur quelques exemples, on pourrait les multiplier, mais j'en ai choisi trois. On reviendra sur l'exemple de Jésus un peu plus loin. Mais le premier exemple de tentation qu'on a dans la Bible, c'est Ève dans le jardin d'Éden, dans Genèse au chapitre 3. Genèse au chapitre 3, Dieu a créé Adam, il l'a placé dans le jardin, il a donné des ordres précis, et puis il a créé Ève. Et si on regarde au verset 2, la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Donc elle est claire sur la position et sur la volonté de Dieu, sur le plan de Dieu. Les choses sont claires puisqu'elle le répète même au diable, au serpent qui est venu pour la solliciter et la tenter. Et puis au verset 6, il nous est dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Je pense qu'il était effectivement certainement attrayant. Si ça avait été un arbre flétri avec des fruits qui ne ressemblent à pas grand-chose, qui sont... Je pense qu'elle n'aurait pas été tentée d'en prendre un. Et le premier pas a été de constater que c'était agréable à la vue. Si on prend un autre exemple, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dans d'autres prédications, mais le péché d'Acan. Le peuple d'Israël avait quitté l'esclavage de l'Égypte et était en route vers le pays de Canaan, que Dieu avait promis de leur donner. Et puis Dieu avait donné des instructions bien précises concernant les Cananéens. C'est un peuple désespérément mauvais, dont le péché était à son comble. Il vivait dans l'immoralité, dans la violence, pratiquait toutes sortes d'idolâtrie, du spiritisme, et même, on le voit dans certains passages, des sacrifices d'enfants. Et Dieu avait ordonné au peuple d'Israël de dévouer ce peuple par interdit, c'est-à-dire de l'exterminer. Et donc, il y a le récit, notamment de la prise de Jéricho, vous pourrez le relire, si vous le souhaitez, dans Josué au chapitre 6. Et notamment, il nous est dit ceci, Josué chapitre 6, verset 17, c'est Josué qui parle au peuple, et il dit « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Elle, la ville, les habitants, tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie arabe, la prostituée, à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions gardés, que nous avions envoyés. Pardon. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit, et vous y jetteriez le trouble. » La prise de la ville de Jéricho a lieu, tout le monde connaît, le peuple d'Israël qui tourne autour pendant 7 jours, les murailles qui s'écroulent, et la ville est envahie, et c'est la victoire pour le peuple d'Israël. Et puis, vient la conquête de la ville suivante, la ville de Haï. Et puis là, ça s'était tellement bien passé à Jéricho que, oh, c'est pas la peine d'envoyer une grande armée, quelques hommes vont suffire, et puis... Vous le lirez, on ne va pas prendre le temps de lire tout le récit parce que ce n'est pas le cœur du sujet, mais c'était la défaite, avec des morts dans le peuple d'Israël. Et là, Josué s'est tenu devant l'Éternel en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ce n'est pas ce que tu nous as promis, qu'est-ce qui se passe ? Et l'Éternel, l'Esprit, a permis à Josué de comprendre et de rencontrer Achan. Et au chapitre 7, verset 19, il est dit ceci. « Josué dit à Achan, « Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Achan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéard, 200 sicles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités et je les ai pris. » La désobéissance par rapport à l'ordre de l'Éternel, mais moi, il y a trois choses que j'ai soulignées, c'est « j'ai vu », j'ai convoité et j'ai pris. J'ai vu, j'ai convoité et j'ai pris. S'il avait constaté justement de voir, tous les enfants d'Israël ont vu la même chose quand ils ont dépouillé les maisons, quand ils ont tous vu la même chose. Mais ça allait plus loin, c'est que non seulement il a vu un beau manteau, des sicles d'argent, des lingots d'or, mais il les a convoités et il est allé plus loin, il les a pris. Et puis un troisième exemple qui est bien connu aussi, la situation de David avec Bathsheba, dans 2 Samuel au chapitre 11, verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était belle de figure. David fit demander qui était cette femme et envoya des gens pour la chercher. David vit qu'elle était belle de figure. Mais là encore, tout le monde avait certainement constaté que cette femme était belle de figure. Ce n'était pas un problème de constater. Il fit demander qui était cette femme. Il y a une deuxième étape de franchie. Et déjà dans son cœur, la convoitise avait déjà germé, puisqu'il a été plus loin, il envoya des gens pour la chercher. Il savait qui elle était. Vous relirez tout le passage, on lui avait dit qui elle était, donc il le savait. Donc, quand il a envoyé chercher des gens pour la faire venir, ce n'était pas pour lui demander qui elle était, il le savait déjà. Donc, dans son cœur, il avait déjà convoité, et il était déjà tombé dans le piège. Et on le voit à travers ces exemples, et on pourrait prendre les exemples de nos tentations dans nos vies. La tentation nous place systématiquement devant un choix. Systématiquement. Soit je cède, j'accepte, je convoite, je vais plus loin, soit je rejette la tentation et je m'en détourne. Et donc, ces trois étapes qui se répètent, c'est agréable à la vue, c'est attirant. Alors, à la vue ou même dans les pensées. Hein. Soit je m'en détourne tout de suite parce que je sais qu'elles ne sont pas de Dieu, soit parce que je sais que c'est de la souillure, parce que je sais que c'est de l'impudicité, parce que je sais que c'est quelque chose qui va m'amener plus loin à convoiter et à tomber dans le péché. Mais il y a cette première étape, il y a ce qui est agréable à la chair, ce qui est attirant. La deuxième étape, la convoitise. Et puis ensuite, si je ne prends pas la décision de rejeter cette tentation, alors il y a la consommation du péché. Et Jacques écrit au chapitre 1er, au verset 12 et 13, on peut le lire ensemble, Jacques chapitre 1er, versets 12 et 13. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. On peut même lire le verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, c'est ce qu'on vient de dire. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Alors de qui vient la tentation ? Puisque ce verset, Jacques, est clair. Dieu ne tente lui-même personne. Donc, il est clair que la tentation ne vient pas de Dieu. Au cas où vous auriez des doutes, ce matin, il faut qu'il soit levé. Dieu ne tente personne. Alors, comme la tentation ne vient pas, ne peut pas venir de Dieu, alors d'où vient-elle ? Si on prend le sermon sur la montagne, qui est devenu ce qu'on appelle, dans certains milieux, le Notre Père, on ne va pas le lire en entier, mais au chapitre 6 de Matthieu et au verset 13, il nous est dit ceci, le Seigneur enseigne ses disciples à prier et leur dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». Alors, est-ce que ça voudrait dire que Dieu lui-même peut nous induire en tentation, puisque le Seigneur enseigne à ses disciples de prier Dieu de ne pas nous induire en tentation? Et j'ai regardé dans différentes traductions, et ça donne aussi un éclairage. Il y a une traduction qui dit « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Il y a aussi une traduction qui dit « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation ». Mais délivre-nous du malin. Et on l'a vu dans le texte d'introduction sur la tentation de Jésus dans le désert, dans Luc au chapitre 4, verset 1er, il nous est dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. » La tentation ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi de nos vies, qui va essayer de profiter de notre faiblesse humaine, parce que nous sommes sur cette terre encore dans un corps humain, avec nos pensées, avec notre vie charnelle. Et le malin, appelé aussi le tentateur, va essayer de nous écarter du plan de Dieu et nous faire tomber dans le péché. Lorsque nous vivons sans Christ, notre vie est sous l'emprise du péché. Et nous n'avons pas la force de résister à la tentation et au tentateur, malgré même parfois, toute la bonne volonté, tous les efforts qu'on peut faire. L'alcoolique qui, tous les jours, dit « j'arrête » parce qu'il est conscient de sa misère, et puis qui retombe dedans le lendemain, et puis le surlendemain. Et quand vous entendez certains témoignages de personnes, je ne suis pas là pour critiquer, mais quand on entend les alcooliques anonymes qui se retrouvent et qui essayent entre eux de s'en sortir, et on entend, moi ça m'interpelle toujours, des personnes qui disent « de toute façon, on ne peut pas en guérir, on vit avec, on fait avec, et on Et au bout de 30 ans, ben, je n'ai pas bu une goutte d'alcool, mais je sais que je suis toujours alcoolique. » Ça, c'est la vie de la personne qui est sans Christ, qui est sous l'emprise du péché. C'est l'homme ou la femme adultère qui, après avoir consommé son péché, est vraiment dans la tristesse, l'amertume, et qui dit « c'est fini, j'arrête », et puis qui retombe, et qui retombe, et qui retombe. C'est le voleur, c'est le menteur, c'est le lot des gens qui vivent sans Christ et qui sont liés par le malin et par le péché. Mais il est évident que quand nous appartenons à Christ et que nous acceptons que notre vie lui soit soumise, alors il nous donne la possibilité de tenir ferme face à la tentation, parce que nous ne sommes plus liés par le péché. Nous pouvons malheureusement, il peut arriver que nous chutions, mais le Seigneur nous relève, nous pardonne, quand nous nous confions, quand nous demandons pardon, et nous ne sommes plus sous l'emprise du malin, sous l'emprise du péché. Et ceux qui pourraient dire, en tant que chrétien, d'enfant de Dieu, né de nouveau, et qu'il pourrait dire, je ne peux pas m'en sortir, non, on ne peut pas justifier notre péché en prétextant que nous ne sommes que de simples humains et par conséquent faibles et imparfaits. On peut s'humilier parce qu'on tombe dans le péché, mais on ne peut pas s'en justifier en disant « ouais, mais j'ai été tenté, je n'ai pas réussi à résister, je suis tombé dans le péché, ça peut arriver ». Mais ce n'est pas un prétexte, et je souhaiterais qu'on puisse aller plus loin. Paul écrit aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, il écrit ceci, parce que je pense qu'il est le plus important, c'est bien évidemment de comprendre ce qu'est la tentation, mais c'est aussi de savoir comment on peut s'en préserver et comment on peut en sortir. Et 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 13, il nous est dit ceci, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » On peut, ce texte-là, je le disais, le mot tentation est parfois aussi traduit du grec dans l'épreuve. Et si on remplace le mot tentation par épreuve, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc ça doit être un encouragement à serrer sur notre cœur en se disant, voilà Seigneur, il m'arrive de passer par des moments d'épreuve, Il m'arrive de passer par des moments de tentation, mais j'ai cette assurance que si tu permets l'épreuve, elle ne vient pas de toi. Si tu permets la tentation, elle ne vient pas de toi. Tu la permets, mais tu permets aussi le moyen d'en sortir et le moyen de la supporter. Et que ce soit pour l'épreuve comme pour la tentation, il est clair que Dieu n'en est pas l'auteur. En revanche, il reste aux commandes. Si j'accepte de me soumettre à lui, alors dans la tentation et dans l'épreuve, il tient les commandes. C'est lui qui maîtrise toutes choses et qui nous donne la possibilité de sortir vainqueur. Et la fidélité de Dieu se manifeste de deux manières, on le voit dans ce passage. C'est d'abord, il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, il connaît nos limites humaines. Donc, si je dis, quand je suis tenté, je me laisse entraîner dans la tentation, je convoite, je consomme le péché, mais ce n'est pas de ma faute parce que c'est au-delà de mes forces, quelque part, je fais Dieu menteur parce qu'il m'est dit dans la parole qu'il ne permet pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il prépare et nous donne le moyen d'en sortir pour que nous puissions supporter la tentation et vaincre le péché. Alors, est-ce un manque de maturité spirituelle d'être tenté? Est-ce que c'est un péché? Alors, un manque de maturité spirituelle d'être tenté, non. Non, ça n'est pas un manque de maturité spirituelle. Parfois, on peut s'accuser soi-même parce qu'il y a la tentation qui est là, et puis on est complètement effondré en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas suffisamment ceci, je ne suis pas suffisamment bien, je n'ai pas suffisamment de… » Et on s'accuse soi-même parce qu'on est tenté de ne pas être suffisamment bien. La tentation n'est pas un manque de maturité spirituelle. Ce qui en est un, c'est de céder facilement à la tentation. Et bien évidemment, encore plus quand elle m'amène à commettre le péché. La tentation est-elle un péché? Non, d'être tenté, on l'a vu, le Seigneur lui-même a été tenté, ça n'est pas un péché d'être tenté. Et là encore, ne nous laissons pas accuser à tort, ne nous accusons pas nous-mêmes, parce qu'il arrive que nous soyons tentés, et là, on rentre dans des raisonnements. Non, la tentation n'est pas un péché. De céder à la tentation et de commettre le péché en devient forcément un. Et l'exemple de Jésus est, je crois, le plus parlant, c'est qu'il nous est bien précisé, Jésus rempli de l'Esprit, il venait d'être baptisé dans le Jourdain, le Saint-Esprit était descendu sur lui, Jésus rempli de l'Esprit revint du Jourdain, et comme si ce n'était pas suffisamment clair, l'Évangile nous dit, et il fut conduit par qui? Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc il était en communion avec le Père, il était rempli de l'Esprit, mais il était conduit dans le désert pour y être tenté par le diable. Alors oui, on peut être conduit par l'Esprit et néanmoins être tenté. Donc ne nous laissons pas démoraliser, ne nous laissons pas accabler quand vient la tentation en se disant « qu'est-ce que j'ai encore pu faire ? J'ai pas été suffisamment spirituel, j'ai pas… » Non, non. Ne regardons pas la tentation sous cet angle-là, mais au contraire, appuyons-nous sur Dieu qui nous donne la capacité et la force de résister. Je voudrais qu'on lise dans Hébreux au chapitre 4 et au verset 14. On pourra même lire les versets 14 à 16. Hébreux chapitre 4, verset 14. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Demeurons fermes dans la foi que nous professons. C'est bien de le professer, c'est encore mieux de demeurer ferme. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, et il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé parce que quand on pense aux tentations qui parfois peuvent venir dans nos vies, je me dis, si le Seigneur a été tenté en toutes choses sur les mêmes choses, ben, il a dû en avoir un paquet de tentations. Il a dû en avoir. Oui, il était fils de Dieu, mais il était homme. Il est venu sur terre comme un homme. Et quand la parole nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, eh bien, je me dis qu'il a dû résister aussi à beaucoup de tentations. Et il me donne la capacité, c'est ça qui m'encourage et me réjouit, c'est qu'il me donne la capacité aussi de résister aux tentations. Alors, comment supporter, comment sortir de la tentation? Paul aux Corinthiens, nous l'avons lu, écrit « Dieu nous donne la capacité de supporter la tentation et prépare le moyen d'en sortir ». Alors, je voudrais qu'on voit quelques points qui me semblent importants. La première chose, ne pas nous exposer à des situations qui risquent de nous conduire dans la tentation et la convoitise. Jacques écrit au chapitre 1er, au verset 21, « C'est pourquoi rejeter toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Rejeter toute souillure. Il est clair que si je vais volontairement dans des endroits où je ne dois pas être, si je lis des choses que je ne dois pas lire, si je regarde sur Internet toutes sortes d'obscénités et je pourrais allonger la liste, il est clair qu'il ne faut pas que je sois surpris d'être tenté. La Bible nous révèle ce qui est inconvenant pour les enfants de Dieu. Nous le savons, quand nous avons été régénérés par Christ, quand le Saint-Esprit nous a montré notre misère, notre péché, quand nous marchons et que nous voulons marcher avec Christ et dans la sainteté, alors oui, son esprit nous révèle ce qui est inconvenant. Et nous ne devons pas nous engager dans aucune sorte d'impureté, d'obscénité, de désobéissance à Dieu. Certains appellent ça la conscience. Moi, j'appelle ça l'esprit de Dieu qui nous révèle. Et face à des situations, il n'y a pas besoin de 2 heures de temps pour savoir si c'est bon pour nous ou si c'est mauvais. Il n'y a pas besoin de 2 heures de temps pour analyser, disséquer en disant « oui, mais peut-être, ouais, mais peut-être qu'il va accepter ». Non, on sait tout de suite si ça va m'amener vers le bien ou vers le mal. Je crois que là-dessus, on est à peu près tous au clair sur le sujet. Nous devons prendre conscience que le fait de permettre à quelques souillures morales de germer dans notre vie attriste le Saint-Esprit. Et en tant que croyants, nous devons considérer la sainteté avec sérieux, sans compromis. Et Paul écrivait aux Galates, chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il est clair que si je marche selon la chair, j'accomplirai les désirs de la chair. Si je marche selon l'Esprit, conduit par le Seigneur, dans la volonté de lui plaire et d'obéir à sa parole, alors Dieu me donne la capacité de ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc, premier point, ne nous exposons pas à des situations où nous savons pertinemment que ça n'est pas notre place et que ça nous amènera inévitablement à la tentation, à la convoitise et au péché. Un deuxième point, je crois qu'il est important aussi, c'est d'avoir la volonté de résister, d'être conscient des conséquences de céder à la convoitise et de consommer le péché. Et je crois qu'il fait le lien direct avec le premier point, c'est que si déjà je suis conscient que ma place n'est pas dans la souillure, dans des choses que je ne dois pas voir, que je ne dois pas entendre, et qu'on peut s'y retrouver par des circonstances de la vie, au niveau professionnel ou dans les choses, mais si j'y vais volontairement, que je me retrouve dans ces situations, est-ce que j'ai la volonté de résister, de ne pas y aller, de dire, ou alors de dire, ouais, mais je suis qu'un pauvre homme, hein, je suis humain, moi c'est pas facile, hein, le monde il est pourri, mais je peux pas vivre, mais c'est comme ça. Non, ayons la volonté de résister et de dire, quand la tentation viendra, oui, je sais que je suis faible, mais Christ me rend fort. Troisièmement, nous devons réaliser que la tentation nous amènera toujours à faire un choix, nous l'avons vu dans les quelques exemples, dont nous sommes seuls responsables. Là aussi, c'est facile d'accuser. Le choix, il m'appartient. Et quand je suis face à la tentation, si je commence à la nourrir, à l'alimenter, alors là, je rentre dans une spirale qui va m'amener à avoir du mal à résister et à faire le mauvais choix. Et je crois qu'il est important de réaliser que, de toute façon, dans la tentation, je devrais choisir. Est-ce que je rejette dès qu'elle arrive en disant « Non, ça, c'est pas de Dieu, ça, c'est pas bon pour ma vie, ça, ça va m'amener plus loin à commettre le péché et je n'en veux pas et je le rejette. » Ou est-ce que j'attends un petit peu, je laisse traîner, je laisse un petit peu, voire même je caresse un petit peu, parce que tout compte fait, c'est plutôt agréable pour la chair. Et là, ça va m'amener à la convoitise. Donc il est important de le savoir. Et c'est aussi un moyen de se préserver. Et quand on est faible et qu'on sait qu'on peut facilement tomber dans la tentation, alors dès l'instant où elle vient, rejetons-la. Rejetons-la. Ne la nourrissons pas. Un quatrième point, une des ruses du tentateur, c'est de nous mettre le doute sur la vérité de la parole de Dieu. Oui, mais tu penses que Dieu il veut ça pour ta vie, mais regarde, il y en a tellement qui sont chrétiens et qui font comme ça que c'est toi qui ouais, tu veux bien faire, mais et puis là aussi on rentre dans des tas de raisonnements. Et le passage qu'on a lu dans le jardin d'Éden sur la tentation de Ève, le malin, ben oui, Dieu a-t-il réellement dit ? Mais non, toi t'as compris ça. Y compris d'ailleurs quand on lit la parole. Si on n'est pas, comment je vais dire ça ? Si on n'a pas la volonté affirmée de chercher la volonté de Dieu. Je peux lire la parole, et ça arrive parfois quand on a des discussions sur des passages où on n'est pas d'accord. On prend le même texte, et puis on le met dans le sens où on a envie d'aller, parce que moi je pense comme ça, donc je vais l'interpréter d'une manière. Et je crois qu'il est important, quand on lit la parole pour sa propre nourriture personnelle, spirituelle, c'est aussi d'avoir ce cœur devant Dieu, de dire, peut-être que j'ai toujours pensé interpréter ce passage de cette manière-là, mais Seigneur, montre-moi par ce texte-là, ce que tu veux dire. J'ai pris tout à l'heure cet exemple du sermon sur la montagne où Jésus enseigne en disant « Lorsque vous priez, dites « Ne nous induis pas en tentation ». Si je le prends comme ça basiquement, ça veut dire que je demande à Dieu qu'il ne me tente pas. Non, c'est un petit peu rapide. Donc prenons le temps de nous tenir devant Dieu, de comprendre, de laisser parler à nos cœurs au travers de sa parole, et de ne pas nous laisser détourner par des choses. Et là, on le voit quand Satan utilise « Oui, mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Quand on commence à discuter la parole, c'est bien souvent parce que ça nous gêne d'obéir à un commandement ou à quelque chose que le Seigneur nous demande de faire. Quand c'est dans notre avantage, quand c'est les promesses, moi j'ai rarement entendu des gens « Oui, mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Alors, sauf parfois quelques-uns qui ont du mal à rentrer dans la foi et à s'abandonner, à penser que Dieu est un Dieu de grâce qui peut donner ses bénédictions, qui peut donner la guérison. Oui, mais bien souvent, les promesses, on ne les discute pas trop. Là où on commence à discuter un petit peu plus, c'est quand ça fait un petit peu mal parce que ça met le doigt sur des choses qui nous touchent, où on sait qu'on n'est pas forcément au clair devant Dieu. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je dis « Oui, Seigneur, pardonne-moi ». Pardonne-moi parce que j'ai encore besoin d'avancer, j'ai besoin de progresser, j'ai besoin que cette parole-là elle vienne me nourrir, j'ai besoin de la mettre en pratique pour avancer dans ma relation, dans mon intimité avec toi. Si je commence à dire « ouais, mais ce n'est pas réellement ce qu'il a voulu dire », eh ben, j'allais dire « c'est mal barré » parce que je commence déjà à rentrer dans la convoitise, à me fourvoyer parce que je n'ai pas envie d'appliquer, d'obéir à la parole. Et Jésus va s'appuyer à trois reprises, quand il a été tenté, sur la parole de Dieu pour contrer le diable, qui à la fin utilisera lui-même un passage de la Bible pour essayer de le faire chuter. Et notamment, j'ai eu la curiosité d'aller voir, le diable dit à Jésus, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il l'avait transporté en haut du temple et lui disait, vas-y, jette-toi, si t'es le fils de Dieu. Et il lui cite la parole. Et je suis allé voir, le texte original, parce que c'est important quand même, le diable qui utilise un texte, il a oublié une petite partie quand même. Parce que le texte dans le psaume 91 au verset 11, il nous dit ceci, « Car il donnera à ses anges à ton sujet des ordres, ainsi de suite, de te garder dans toutes tes voies. » C'est bizarre. C'est bizarre, le diable il a oublié de ce passage-là. De te garder dans toutes tes voies. Et ne nous laissons pas attaquer par des portions de choses qui peuvent être tordues. Prenons l'intégralité de la parole pour vraiment s'en revêtir et pour nous protéger, nous préserver au moment de la tentation. La Bible est importante, la parole de Dieu est importante dans nos moments de tentation, bien évidemment dans toutes les phases de notre vie spirituelle, mais peut-être encore plus dans ces moments-là, dans les moments d'épreuve, de tentation, parce qu'elle nous révèle la vraie nature de Dieu. Et le Seigneur ne nous demande pas de l'apprendre par cœur, de la réciter, on peut la réciter, ce n'est pas un problème, hein. Mais de nous en imprégner pour savoir discerner quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Et plus je lis la Bible, plus je m'en imprègne, plus je connais le Père, plus je suis en relation intime avec lui, et plus je connais la vraie nature de Dieu. Et plus je connais la vraie nature de Dieu. Et au moment de la tentation, ces choses-là vont me nourrir et vont me conforter. Et à ce moment-là, moi, je céderai à la tentation parce que je sais que mon péché va l'attrister et va m'éloigner de lui. Et le fait de se nourrir, de s'imprégner de la parole, bien évidemment, c'est bien de le connaître, les passages, de connaître les textes, mais de connaître aussi l'auteur de la parole, la nature de mon Père, de mon Dieu, qui conduit ma vie, qui est là et pour m'accompagner, pour me porter, pour me donner le moyen de supporter l'épreuve, la tentation et d'en sortir. Dans Luc, au chapitre 8, il est question de la parabole du semeur. Luc, chapitre 8, et on pourra lire, on ne va pas la lire en entier, mais j'aimerais qu'on lise les versets 11 à 15. Donc, il est question d'un semeur qui sort pour semer, et voici ce qu'il nous est dit. Voici ce que signifie cette parabole, la semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et porte du fruit avec persévérance. Sur le roc, la semence qui tombe sur le roc, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent. Quand est-ce qu'ils succombent ? Au moment de la tentation. Au moment de la tentation, parce que leur foi n'est pas enracinée sur la parole. Ce qui fait la grande différence entre la semence qui tombe sur le roc et celle qui tombe dans la bonne terre, pour que ça puisse monter, il faut que ça puisse descendre. C'est-à-dire que on le voit ici, la semence sur le roc, elle va éventuellement germer, elle va éventuellement commencer à monter, mais comme elle n'est pas enracinée, dès que la tentation va venir, dès que le soleil va brûler un petit peu, dès que les intempéries, les difficultés vont venir, la plante, elle va mourir. Et ici, nous avons aussi un avertissement, que ce soit pour ceux et celles qui découvrent l'Évangile depuis peu de temps, qui ont reçu la parole avec joie, ou que ce soit pour ceux qui la connaissent depuis plusieurs dizaines d'années, si nous ne sommes pas enracinés, si notre foi ne va pas dans les profondeurs de la parole s'enraciner, alors la plante, la belle plante que nous sommes, au moment de la tentation, elle ne résistera pas. Donc c'est important aussi d'enraciner notre foi dans la parole. Et puis, le cinquième point, c'est de nous tenir dans la prière, et de demander à Dieu de nous garder au jour de la tentation. C'est ce que Jésus enseignait dans le sermon sur la montagne. Il dit « Voici donc comment vous devez prier » et dans la liste « Ne nous induis pas en tentation, ne nous expose pas, ne permet pas que nous entrions dans la tentation. » Il en est question aussi lorsque l'arrestation de Jésus est proche, il est au jardin de Gethsémané, ses disciples l'ont suivi. Il y a un combat spirituel intense. Et puis à un moment, le Seigneur s'éloigne un petit peu pour prier. Et puis quand il revient, il les trouve endormis. Il leur dit déjà en arrivant, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Il s'éloigne, il revient, ils dorment tous. « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Ne présageons pas de nos forces. Si nous voulons tenir face à la tentation, il nous faut rester sur nos gardes en permanence et prier pour que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Amen. Nous sommes dans un combat spirituel dans lequel nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et je voudrais vraiment ce matin que ce message ne soit pas une accusation. Nous sommes tous tentés. Jésus lui-même a été tenté. Et si jusque-là, la tentation était pour toi un sujet de douleur, de tristesse, ça ne doit pas l'être. La Bible est claire. Nous sommes et nous serons toujours amenés à être tentés. Alors, pas en permanence. Dans l'exemple de la tentation de Jésus, le diable s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Mais il est clair que dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Et ayez cette assurance que dans la tentation, le Seigneur nous donne la force de résister. Il combat pour nous, mais nous avons notre part à faire. La tentation nous amènera forcément, systématiquement, à un choix. J'accepte la tentation, je la tolère, j'y cède et je tombe dans le péché, ou alors je résiste parce que je prends la ferme résolution d'y résister par la grâce de Dieu. Et Jacques écrit au chapitre 3, au verset 6 et 7, un texte aussi qui est connu des chrétiens. « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » 1. Soumettez-vous donc à Dieu. 2. Résistez au diable. Et 3. Il fuira loin de vous. » Et je crois que ça synthétise bien aussi ce qui se passe au moment de la tentation. Soumettons nos vies à Dieu, résistons au diable et il fuira loin de nous. Alors, la tentation n'est pas un sujet qu'on aborde toujours facilement parce qu'il y a la culpabilité, il y a cette notion aussi parfois de dire « Ouais, mais il y a des tas de choses qui reviennent du passé. » Vous savez que, je disais en introduction, on peut pas traiter la tentation dans tous ses aspects parce que pour l'un, ce sera d'une manière, pour l'autre, ce sera d'une autre. Moi, je remarque souvent que la tentation fait souvent attrait soit à des choses de notre vie ancienne, soit à des choses de notre vie où nous avons humainement des faiblesses. Et le malin va aussi essayer ça pour nous éloigner de Dieu. Et on n'en parle pas forcément. Et je constate une chose, c'est que Jésus lui-même n'a pas hésité à en parler à ses disciples de sa propre tentation. Parce que quand il nous a dit qu'il était amené dans le désert, il n'est pas mis, et ça j'en suis persuadé, que les disciples n'ont pas suivi dans le désert. Il était seul avec son père. Mais les évangiles nous rapportent, on l'a dans l'évangile de Matthieu, on l'a dans l'évangile de Luc, ça veut dire que le Seigneur lui-même abordait le sujet avec ses disciples, en leur racontant ce qui s'était passé. Voilà, j'ai été tenté, voilà ce qui s'est passé. Et ça aussi, ça doit m'encourager à dire, si je suis sujet à la tentation, je ne dois pas prendre ça comme une accusation. Par contre, si je suis sujet à la tentation et que je me rends compte que dans ma faiblesse, je tombe souvent. Et puis je prends la résolution, et puis je retombe, et puis je retombe, et je retombe encore. Je pense qu'il est important de pouvoir en parler avec un frère, une sœur, un responsable, quelqu'un qui va pouvoir m'écouter, m'encourager, prier avec moi, ne pas me juger. Mais c'est important de ne pas le garder pour soi, parce que la tentation, une fois plus, n'est pas un péché, mais y céder et tomber dans la tentation, c'est quelque chose qui est lourd de conséquences, parce que ça m'amène forcément dans le péché. Alors oui, Dieu me relève. Et là encore, ça doit être un encouragement pour nos vies. Si tu es encore, au cours des derniers jours, des dernières semaines, tu es tombé parce que tu as été tenté, eh bien, approche-toi de Dieu, demande pardon. Et il relève. Amen, il relève. Mais ne reste pas non plus avec ça indéfiniment. Si c'est quelque chose qui est de manière récurrente et que tu n'as pas la force, alors il faut, je pense que c'est important de pouvoir se confier à un frère, à une sœur, de prier ensemble, et le Seigneur, de toute façon, nous donne la force, la capacité d'en sortir. Et puis, peut-être qu'un homme, une femme, plusieurs ce matin, ne sont pas rentrés encore dans cette nouvelle vie avec Christ. Parce que là, quand on vit dans le péché, la situation est différente. Parce que la tentation, d'abord, on n'en a pas forcément la même vision, et on n'a pas la force d'y résister. Parce que quand je vis dans le péché, quand je n'ai pas accepté de confier ma vie à Christ pour qu'il la transforme, qu'il me libère du péché, alors je ne suis pas soumis à Dieu et à la liberté que j'ai en Christ, mais je suis soumis aux règles du péché. Et peut-être certains sont dans ce cas et conscients aussi de la situation, conscients des tentations. Je citais l'alcool, je citais l'adultère, ça peut être la pornographie, ça peut être le mensonge, ça peut être... Et la liste est longue et chacun sait ce qu'on peut y mettre. Et si certains sont dans cette situation ce matin, moi je peux vous dire une chose, c'est que de votre propre force, vous n'y arriverez pas. De votre propre force, vous n'y arriverez pas. Alors, soit vous allez persister en disant de toute façon, moi je tiens bon, tant que vous ne capitulerez pas devant Dieu, tant que vous n'accepterez pas que Christ vienne dans votre vie, vous libérer de ce péché, de ce mal qui vous tient dans des chaînes, vous tournerez en rond, vous resterez enchaîné. Cette passion, cette tentation, ce péché dans lequel vous tombez reviendra inlassablement, inlassablement. Alors vraiment ce matin, je vous encourage, si c'est le cas, à capituler, à venir au pied de la croix, à dire oui, je suis un homme pécheur, je suis une femme pécheresse, j'ai besoin d'être délivré de ces chaînes du péché et je m'en remets à Christ qui a porté ce péché à la croix. Amen, nous allons prier ensemble. Je te bénis Seigneur pour ta parole, elle est une lampe à nos pieds, celle qui nous éclaire, et je te rends grâce, Seigneur, pour le bien que tu m'as fait aussi en préparant ce message, Seigneur. Pour ma propre vie, ces encouragements, Seigneur, cette assurance que tu es avec moi. Et dans ces moments de tentation, dans ces moments d'épreuve, tu me donnes la capacité de tenir ferme. Tu me donnes la capacité de résister. Tu me donnes la force de résister au jour de la tentation. Et je te rends grâce pour cela, Seigneur. Mon cœur est dans la joie, Seigneur, d'avoir un Dieu si grand, si puissant. Nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé. Je veux encore te dire, Seigneur, ce matin, toute ma reconnaissance. Je te prie, Seigneur, pour mes frères, mes sœurs qui sont peut-être découragés par ces tentations qui viennent, qui sont là dans leur vie et auxquelles ils sont régulièrement peut-être sujets et dans lesquelles peut-être ils tombent si facilement. Tu es celui qui relève, Seigneur. Tu es celui qui pardonne. Inlassablement, tu pardonnes, Seigneur, à celui qui se repent et qui vient à toi. Merci alors ce matin, Seigneur, de donner cette certitude à ceux qui sont dans le doute que tu relèves, tu pardonnes celui qui est tombé et qui revient à toi d'un cœur repentant, Seigneur. Je te prie pour des amis peut-être qui sont là ce matin et qui n'ont pas fait ce pas de foi, de reconnaître leur misère et qui sont là pris dans les chaînes, dans le péché et qui n'arrivent pas à s'en dépêtrer, Seigneur. Merci de toucher les cœurs. Merci de toucher les cœurs, Seigneur. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui relève, Seigneur. Tu es celui qui donne une nouvelle vie à celui qui vient à toi. Sois béni et glorifié, Seigneur. Merci de nous donner, Seigneur, de garder cette parole, de la mettre en pratique et qu'au jour de la tentation, nous puissions être dans la joie de voir que tu es avec nous. Tu marches avec nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen.